الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم. كون كونفنو نزالون دو سجور كومونسي قراءتنا في هذا الكتاب المبارك الذي هو الأربعون النووية. On va lire Inch'Allah et commenter en résumé ce livre Mubarak qui est les 40 hadiths qu'a rassemblé An-Nawawi. Rahimahullah ta'ala. La dernière fois, on a pris le Mukaddima dans laquelle on avait évoqué que celui qui mémorise ses hadiths, les comprend et les applique, et sous leur vrai sens, il deviendra un imam. Et quand on dit imam, c'est pas imam comme les gens le comprennent, imam, yani, zama prédicateur ou quoi. Non, je parle d'imam, c'est-à-dire une personne dans la religion qui est une référence. Une personne qui est un exemple. Même si elle parle pas, même si elle est pas sur le minbar, même si elle est pas dolo, c'est une personne dans sa pratique, elle est exemplaire. On parle pas des imams comme les gens le prétendent. Et on le répète, à la base, ce terme-là, imam, là, c'est l'imam, celui qui préside la salat. C'est pas celui qui parle et qui fait des doulous, qui fait des vidéos, je ne sais quoi. C'est pas des imams, ça. Un imam, c'est celui qui vit au masjid, qui est devant tout le monde, qui fait la salat. Et c'est un imam. Parce que les gens veulent faire comme les gens du livre. Eux, ils ont leur prêtre, ils ont leur rabbin, nous, on a un imam. L'imam, ça peut être n'importe qui. Dans la salat, il dirige la salat. Et celui qu'on appelle imam, comme l'imam Malik, par exemple, c'est parce que ce sont des gens qui ont pris, justement, un haut niveau. Là, c'est imam fi din, dans le sens des imams, des guides en religion. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de mosquée ou de faire la salat. Leur science a suffi à ce qu'ils soient qualifiés de imam. Et les grands savants sont des imams. Et là, c'est pas le sens imam qui dirige la salat, c'est imam des gens qui sont des guides pour la Ummah. Les autres petits prédicateurs, eux, c'est ni des guides. Et ils ont une mosquée, bah, c'est un imam de mosquée. En dehors de ça, c'est un monsieur tout le monde ou c'est un da'i ou quoi. D'accord? Donc attention à cette confusion que les gens, ils ont. Dès que quelqu'un parle en religion, ils appellent imam un tel, et ça, c'est pas vrai. En religion, ça n'existe pas, ça. Taïe. Donc le but, là, c'est de faire, comme a qu'allah ta'ala, « وَجَلْنَا لِلْمُتَقِينَ imam. Il fallait de nous, pour les pieux, des imams, c'est-à-dire des guides. Et ce genre de kutub nous aide justement à y parvenir. Donc la dernière fois, on a pris la muqaddima, une introduction légère. Aujourd'hui, on va rentrer dans le premier hadith. « Al-hadith ul-awwalu » يقول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc c'est un fameux hadith qui est connu, que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Un minimum, tant il est important. Ce hadith rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les actes ne valent que pas les attentions. Et que chacun sera rétribué en fonction de son attention. Que celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, sa hijra est comptée comme telle, pour Allah et son messager. Et celui qui fait la hijra pour avoir une part de ce bas monde ou pour une femme qui veut épouser, sa hijra sera comptée comme telle. Et le hadith, c'est les mots de Tafakun al-Ali, c'est-à-dire apporté par Al-Bukhari et Muslim. Non. Donc ce hadith, comme il y a quoi le mot al-lifu, et le mot al-lif, là, quand je dis le mot al-lif, c'est le sharir, c'est le commentateur qui est Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad. Et j'avais dit la dernière fois, vous voyez comme il y a beaucoup d'écrits, on ne peut pas tout lire, on n'aura jamais le temps. Donc je choisis des passages qui sont importants, des passages clés, en les traduisant, et on y ajoute, s'il faut, des commentaires, des exemples. Il dit, « Ce hadith est un des principes de l'Iman, et le premier d'aim, et le premier des arcanes. » Il dit, « Le Shafi'i, rahimahullah ta'ala, « yadkhulu hadha al-hadith fi 70 baban min al-fiqh, wa qala aidan wa thuluth al-ilm. » Donc ce hadith, il est parmi les fondements de la foi. Même, il est la base de la foi, car ce hadith indique une condition indispensable pour voir les actes acceptés en religion. Il rapporte que l'imam Shafi'i, et l'on dit imam au sens comme il le mérite, que ce hadith rentre dans 70 branches du fiqh. Il a dit également que ce hadith, c'est le tiers de la religion, à lui tout seul. وَيَقُولْ هُوَ أَحَدِ الْأَحَادِثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارَ الْإِسْلَامِ. C'est l'un des hadiths sur lesquels, yani, qui sont les points de pivot de l'islam, sur lesquels se repose l'islam. وَيَقُولْ لَا يَسْتَغْنِي مُتَدَيِّنْ عَنْ مَعْلِفَاتِهَا. Et ce hadith, aucune personne dotée d'une bonne religiosité ne se passe de ce hadith. Il est obligé de le connaître, de le comprendre et bien évidemment de l'appliquer. Non. يقول ونقل جماعة من السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. Il fut rapporté que un grand groupe de salaf, parmi les anciens, lorsqu'ils commençaient un livre, voyez, ils commençaient en citant ce hadith pour l'importance qui en découle, car ce hadith te fait office de rappel quand tu fais un acte que tu ne fais pas pour rien. D'accord? Quand tu fais un acte, donc réfléchis bien à ta niya quand tu fais cet acte-là, qu'est-ce que tu veux derrière? Car il faut que tu fasses un acte qui te fatigue, qui prenne ton temps, qui prenne ta vie, et au final, zéro, ça rapporte rien. Pourquoi? La niya n'était pas là. La niya n'était pas là. Voire pire, qu'une niya, une mauvaise niya pour un acte qui est censé plaire à Allah Azawajal peut te valoir, comme on l'a dit la dernière fois, le péché, ou même la déviance, ou voire pire que cela. Car tu as fait une chose qui paraissait aux gens comme étant belle, et intérieurement, ton intention était moche. Donc c'est avalu ce que Allah Azawajal, il sait, que tu méritais d'avoir. Et ce hadith concerne toute forme d'acte, que ce soit les actes apparents, que ce soit les actes, les paroles verbaux, ou les actes intérieurs, les actes du cœur. Car vous savez, l'iman, la foi, c'est trois choses. C'est parole de la langue, c'est croyance du cœur, on appelle également parole du cœur. Et quand on dit croyance du cœur, c'est la croyance et les actes du cœur. Les actes du cœur comme la peur, l'espoir, le tawakkul, la crainte et autres. Et on appelle ça qawl al-qalb. Ça s'appelle également parole du cœur. Et il y a les paroles des membres, les actes des membres, les actes apparents. Donc cette niya, on doit la voir dans les trois. On doit l'avoir dans l'intention, c'est-à-dire l'intention de l'avoir dans les actes du cœur qu'on a. Quand on a peur, de quoi on a peur? Quand on craint, qu'est-ce qu'on craint? Quand on espère, de qui on espère? Quand on parle, à qui on veut plaire? Quel est notre objectif par cette parole? Et dans les actes, il en est de même. Quand tu fais salat, pourquoi tu fais salat? À qui tu veux plaire? Quand tu fais tel acte, pourquoi tu le fais? À qui tu veux plaire? Et ainsi de suite. يقول إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد عليه لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. Et ce hadith il indique également que tout acte, et là on parle d'actes de dévotion, d'adoration, on ne parle pas des actes communs et de tous les jours. D'accord, il y a des actes qu'on peut les faire, il y a rien derrière. Mais là on parle de tout acte par lequel on recherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est un acte que Allah a ordonné de faire, ou a indiqué qu'il était préférable de faire, ou autre, et que par cela on vise autre que lui, alors cet acte sera vain. Il n'apportera aucun fruit en ce bas monde ni dans l'au-delà. Et voire même, ça peut aller plus loin. Yaqul, il rapporte une parole de l'imam Ahmed. فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى فِعْلَ الْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ وَتَوَقُّفْ عَنَ الشُّبُهَاتِ وَهَذَا كُلُّهُ تَتَضَمَّنَهُ حَدِيثُ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَإِنَّمَا يُتِمُّ بِذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى مُوَافِقَةِ السُّنَّةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَتَضَمَّنَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي بَاطِنِهِ يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ عُمَرَ. Il dit en indiquant une parole de l'imam Ahmed qui dit que la religion entièrement se base sur quoi? Quels sont les objectifs de la religion? C'est d'appliquer les ordres. ce qui nous est ordonné de faire, on le fait. De délaisser les interdits, ce qui nous était interdit, on le délaisse. Et de s'abstenir des choses ambiguës, quand tu sais pas. D'accord? T'as les choses ambiguës. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Je sais pas, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je m'abstiens. Et c'est ce que je sache. Si je sais que c'est halal après, alhamdoulilah. Parce que si jamais t'as un doute sur la chose et que tu l'as fait, ça va venir dans un hadith qui va, ça sera le, normalement, quatrième hadith de ce livre. On t'expliquera ce qu'il en est et que cela peut te coûter, justement, de prendre des péchés. Ça s'appelle al-wara. Al-wara, c'est la retenue, voilà, retenue, tu te retiens de faire une chose dont tu ne connais pas le jugement. Ne pas le faire, ça va rien te coûter. Et le faire, si jamais c'est mauvais, ça peut te coûter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Donc il dit, et ces trois choses qui sont appliquer les ordres, délaisser les interdits, et s'arrêter dans les choses à équivoque ambigu, les choubouhettes, ces actes-là doivent être basés sur deux règles, qui seront également expliquées dans les hadiths qui vont revenir, dont celui d'aujourd'hui. Le premier, c'est que ton acte, celui que tu vas accomplir, il soit en conformité avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ça va venir dans le hadith de Aïcha, dans le kitab Inch'Allah. Que tout acte qui n'est pas en conformité avec la sunna, il est rejeté. Tu rentres dans la bid'a et dans l'invention en religion. C'est rejeté. C'est pas accepté. Quoi que tu fasses, quelle que soit la quantité, c'est pas accepté auprès d'Allah. La deuxième condition, c'est celle-ci. Ton intention. D'accord? Ton intention. Et on le répète, il y a également une autre condition, mais comme elle est tellement évidente que la ne la cite pas, c'est que tu sois musulman. L'islam. Sans l'islam, Allah accepte aucun acte. De base. Il accepte que du musulman. Celui qui n'est pas musulman, quoi qu'il fasse, c'est pas accepté. Même s'il est sincère, c'est pas accepté. Ensuite, il explique innamal a'mal binniyat. Bon, après, il parle de règles qui sont liées à propre à la langue arabe, donc on va les passer. Que cela, en fait, ce hadith-là, il englobe tout acte que tu vas commettre. C'est-à-dire qu'un acte commun peut devenir une adoration pour l'intention que tu auras mise. Comme il dit, مثلاً, إنها للعموم في كل عمل فما كان منها قربة أصيب عليه فعله. Donc maintenant cela concerne tous les actes que tu vas faire. Si jamais c'est un acte qui de base est une adoration qui est décrétée en religion, la salat, ton siyam, ton hajj, ta sadaqa, ce que tu veux, parmi les choses que tu connais, il y a un texte et que ta nièce perd Allah Azawajal, t'en seras récompensé. D'accord. ويقول وكان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يصاب عليه إذا نوى به التقوى أو التقوية أو التقوي على الطاعة. Et les actes communs, les actes de tous les jours, tu vas en avoir une récompense si tu fais cet acte-là en mettant l'intention de te renforcer. Par exemple, tu manges, tu bois, tu dors. Mais quand tu le fais, tu fais la niya de te renforcer pour pouvoir adorer Allah Azawajal. C'est pas tu manges ce que tu as faim seulement parce que c'est bon. Tu mets niya de quoi? Que je vais manger pour être en bonne santé et pouvoir adorer Allah Azawajal. Et ben, en mangeant, t'es récompensé. Tu bois, pareil. Tu dors, pour pouvoir te lever, tu te lèves, tu te couches tôt, pour te lever tout le matin pour aller au fajr, ou celui qui en a la force de se lever la nuit, d'accord? T'es récompensé. C'est pour ça que le musulman, son affaire à l'incroyable, on le rappelle souvent, ce qui le différencie des autres, c'est que quoi qu'il fasse, s'il met une bonne niya, il est en adoration. L'adoration n'est pas limitée à des actes connus et apparents qu'on connaît tous, comme la salat, le... Quoi que tu fasses, tu mets une niya, ton adoration. D'accord? Et ça se voit pas. C'est entre toi et Allah Azawajal. Ça se voit pas. Donc ça, ça revient au verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que qui m'adorent. Donc toi, le musulman, tu peux être en adoration constante, sans même que cela se voit. Tu auras tes adorations qui seront apparentes, et d'autres que personne ne saura par Allah Azawajal. Et même, on va prendre dans un hadith, même avoir des rapports avec ta femme. Avoir des rapports avec ta femme dans le halal, tu en tires une récompense. Vous voyez, le hadith, il va venir, bismillah. يقول أن الأعمال معتبرة بنياتها والنية في اللغة القصد وتأتي للتمييز بين العادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل أو تمييز العبادات عن العادات كغسل من الجنابة وغسل تبرد وتنظف. Donc le fait que les actes ne valent que par les intentions, al-niyya, on appelle ça niyya en arabe. Al-niyya, c'est littéralement parlant, c'est al-qasd. Al-qasd, c'est la chose que tu vises. Vous voyez, c'est la chose que tu vises, c'est l'objectif. Et elle vient cette niyya pour distinguer entre les actes d'adoration. Pour pas que tu fasses un cocktail et tout est mélangé, tu sais pas quoi et quoi. Masalan, tu différencies entre les actes obligatoires. Par exemple, la salat du dhuhr, c'est pas celle du asr. Même des fois, ça t'arrive, par exemple, t'es en voyage, tu fais le jam entre les deux. Mais il faut que tu mettes la niyya du dhuhr avant de la faire. Ensuite, tu fais le asr. Si tu mets pas la niyya, ta salat, elle est pas acceptée. Et quand tu mets la niyya, tu mets la niyya du dhuhr. C'est pas juste niyya, je fais une salat. Tu mets la niyya du dhuhr. Quand le asr, il vient, tu mets la niyya du asr. Quand le maghreb, il vient, la niyya du maghreb. Ça, c'est obligatoire. Tu mets la niyya de la salat que tu vas faire. Donc, tu distingues par ta niyya quelle salat tu as faite. D'accord? Quelle salat tu as faite à ce moment-là? Ta niyya le distingue. Également, il distingue un acte obligatoire d'un acte surrogatoire. Tu vas distinguer, par exemple, ta salat obligatoire d'une que tu fais de toi-même qui n'est pas obligatoire. Par quoi? Par la niyya. Par exemple, tu fais salat de Doha le matin, tu mets la niyya du Doha. D'accord? Quand le soir, pendant le ramadan, tu fais tarawih, tu mets niyya tarawih. Et ensuite, tu as même les adorations al-muqayyada, surrogatoire, et al-mutlaqa. Muqayyada, c'est par exemple comme le doha, c'est salat aux adorations qui ont un texte qui te disent que telle adoration, tu l'as fait de telle façon, à tel moment défini. Par exemple, le doha, salat du doha, c'est une salat qui est surrogatoire, mais tu ne la fais pas n'importe quand. Tu la fais entre le lever du soleil et avant le zénith. Après, c'est fini, tu ne peux plus la faire. Le witr, tu le fais de après l'Isha, juste avant le lever du soleil, le Fajr. En dehors de cela, tu ne peux pas le faire, à part pour quelqu'un qui serait excusé, qui l'aurait raté. Là, c'est autre chose, le rattrapage. Tu ne vas pas faire le witr après le dhuhr. Non. C'est-à-dire que c'est des actes d'adoration surrogatoires, mais ils ont des règles. Tu les fais dans leur temps. D'accord? Et tu as des actes d'adoration qui sont, eux, absolus. Tu les fais quand tu veux. Quand tu veux. Sauf si un texte te dit, à tel moment, tu ne fais pas ça. Par exemple, tu as des salawat, tu as des heures, faut pas les faire. Comme vous le savez, tu as des heures où la salat, elle est interdite. Donc toi, tu distingues entre ces adorations, entre celui qui est surrogatoire absolu, celui qui est surrogatoire conditionné, celui qui est obligatoire, et celui qui est plus qu'obligatoire encore. Ainsi de suite. Ça, comment tu le différencies? Par ton intention. Tu ne verras pas une personne faire un acte sans qu'elle ait une intention. C'est obligatoire. Quoi que tu fasses, tu vas à Carrefour, tu as l'intention d'acheter un stylo. Tu vas là-bas à la sandwicherie, tu as l'intention de manger. Tu vas à tel endroit, tu as l'intention de faire... Quoi, tu fais rien sans avoir une intention. Maintenant, toi, tu te dis, mon intention, c'est quoi quand je vais faire ça? L'adoration. Et là, il dit également, pour distinguer une adoration d'un acte commun. D'un exemple du roussel, du lavage. Le vendredi matin, avant d'aller au Jumu'ah, c'est de faire le roussel. Après, il y a un khilaf entre l'ulama, est-ce qu'il est obligatoire ou pas. Sans regarder ce khilaf-là, si quelqu'un y vient, par exemple, le vendredi matin, il va faire un peu de sport, il fait un foot, il transpire, après il rentre, il se douche. Et après, il va au Jumu'ah, et après il dit, oh, j'ai pas fait le roussel du Jumu'ah, ah, mais c'est bon, je me suis douché après le foot, c'est bon. Non. T'as pas fait le roussel du Jumu'ah. Pourquoi est-ce que t'as pas mis la niyyah du Jumu'ah quand t'as fait ton roussel? T'as fait la niyyah de te rincer du sport. Ben ça, c'est un acte commun. Mais l'acte du roussel du Jumu'ah, eh ben, il est pas accepté. Je te dis pas que ton Jumu'ah, il est pas accepté, hein. Je parle le roussel, que tu dises, ouais, c'est bon, j'ai fait mon roussel. Non, tu l'as pas fait. Ceux qui sont mariés, Mathalène, après avoir du rapport, roussel janab, de l'impureté majeure, Mathalène. Eh ben, pareil, quelqu'un qui a eu un rapport, qui s'est douché, il a fait un roussel, sans mettre la niya du roussel janaba, d'accord? Eh bien, quoi qu'il fasse comme salat après, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il a, il s'est pas purifié. Donc l'attention, elle est primordiale pour l'acte que tu vas faire. Si ton roussel de janaba, t'as pas fait l'intention de janaba, Mais tu t'es douché de la même façon, tout ce qu'on fait comme rite, mais t'as pas mis la niyat junaba, et ben après ton wudu et tes salats, tous sont batil. Parce que t'es pas purifié. Donc innamal amal bin niyat, l'intention, elle est primordiale. D'accord? Elle est primordiale. Donc distinguer entre les actes habituels et les actes d'adoration qui ont une apparence similaire. Ils sont pareils. Taïeb. Il dit, قَوْلُهُ إِنَّمَا لِكُلِ مِرْئِنْ مَا نَوَى. Que chacun sera, son acte sera pris en considération en fonction de son intention. إِخْبَارُنَا نَوَى لَا يَصُلْ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَا نَوَاهُ. Cela informe que son action ne sera prise en compte que par son intention quand il l'aura faite. فَإِنَّا وَخَيْرٌ حَصَلَ لَهُ خَيْرٌ وَإِنَّا وَشَرٌ حَصَلَ لَهُ شَرٌ. Que s'il a mis, il a une bonne intention, il aura une bonne récompense. Et s'il a une mauvaise intention, eh ben, il aura un péché. Et ça, même sur un acte qui, de base, est correct. Mais lui, dans son intention, dans son cœur, il a une intention qui est mauvaise. Salam, vous savez ce hadith de ces trois qui seront interrogés, parmi les trois premiers qui seront interrogés au Qiyamah, il y a le lecteur du Coran, il y a le riche qui faisait aumône, et il y a le combattant sur le sortir d'Allah Azzawajal. Chacun sera interrogé pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il sera dit au Qari, pourquoi tu lisais le Coran? Il a dit, il disait, pour l'enseigner aux gens et par amour pour toi. Il sera dit, tu as menti. Tu as appris le Coran, tu l'as récité pour qu'on te dise que tu es quelqu'un qui récite bien. Et dans la dunya, les gens l'ont dit. Ils t'ont vu, ils étaient impressionnés par ta voix, par ton itqan, comment ton hifz, il était précis, méticuleux. Même il te voyait peut-être pleurer dans la salate. Tu vois? Mais Allah, il va te faire comprendre, moi, je sais c'est quoi ta niya. Tu voulais plaire aux gens. Donc il sera où? Lui sera au feu. Dans la dunya, on l'a vu, mashallah, imam, tu le vois partout, son nom est partout, c'est, voilà, des références. Mais sa niya, il n'y a que Allah qui la connaît. Il sera jugé pour cette niya-là. Pourtant, il a fait un acte de bien. Il a pris le Coran, c'est pas rien. Le deuxième, celui qui fait sadaqa. Il a eu de l'argent. Il s'est demandé pourquoi tu donnes de l'argent. Il a dit, c'était pour te plaire, ya Rabbi. Pour toi. Il sera dit, non, tu as menti. Tu fais ça pour que les gens disent que tu es généreux. Et les gens l'ont dit. Tu vois. Il sera où après? Au feu. Pourquoi? Car il a fait un acte de bien en apparent, mais sa niya était mauvaise. Sa niya, c'était de plaire aux gens qu'on le fasse son éloge. Et pareil pour celui qui combat. C'est la même chose. Et t'as des actes que tu vas faire. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si les deux muslims sont en contact avec leurs épées, c'est-à-dire pour se combattre, il a dit le tueur et le tué, les deux sont au feu. Ils ont dit le tueur, les sahabés ont dit le tueur, on comprend, mais le tué, qu'est-ce qu'il a fait? Le tué, il a été tué, mais comptait aller tuer l'autre à la base. Seulement, il s'est fait tuer en premier. Seigneur s'était tué, donc lui aussi sera au feu. Tu vois? Et là, on parle de gens qui allaient se battre sans raison valable. Pas un qui se défend en légitime défense, ça c'est autre chose. Par exemple, t'en as, tu vas voir quelqu'un, il a un conflit avec un frère. Il sait pas où trouver le frère. Il dit, le frère, je sais, il va au tel masjid. Tu vois? C'est le dhor, tiens, je vais y aller, je vais l'attraper. Il va au dhor, au masjid. Les gens disent, ah, machin, il va faire salat. Non, il va faire salat. Il va attraper un frère au masjid. Tu vois? Saniya, c'est quoi? D'aller frapper quelqu'un, ou d'aller faire du mal à quelqu'un, ou d'aller même pas frapper. On dit, je sais pas, molendette, il va jamais au mosdid. Et c'est que le frère qui veut, il est à tel mosdid à telle heure. Je vais aller là-bas, je vais demander mon argent. Il va aller au mosdid, il fait la salat. Dans la salat, il fait juste, il est où l'autre là? Il cherche. Après la salat, il fait le taslim, hop, il l'attrape. Il y a Harry. Et Allah, mon argent. Ou telle et telle chose. Il est venu au mosdid, il a fait la salat, mais son but c'était quoi? Je parle de quelqu'un qui, à la base, vient pas au masjid. D'accord? Pas quelqu'un qui va au masjid et ce jour-là, il va là-bas pour une raison précise. Pas quelqu'un qui va pas au masjid. Tu vois? Aslan, il est parti au masjid pour voir une personne pour un truc précis. Donc, son enseignant, c'était quoi à ce moment-là? Autre chose que la salat en jama'a. D'accord? Mais attention, n'ayez pas peur, les frères. Je dis pas que celui qui va au masjid et qui a aussi nié de voir quelqu'un, c'est vain. Non. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller au masjid, salat en jama'a. Mais en plus, Il sait que il a une haja avec un tel, il va y aller quand même. Mais de base, il y va, de toute façon. Moi, je parle de quelqu'un qui, à la base, ne va pas au masjid. D'accord? Il va pas au masjid. Et donc, il y a plein d'actes comme ça. Et donc, ce hadith qui donne l'exemple de celui qui fait la hijra. Voyez, là, l'auteur, il va en parler. Il dit, « El hijratu min al hajr wa wa tark. » La hijra, c'est le nom du mot qui est hajr, qui veut dire délaisser quelqu'un. Délaisser une chose. C'est le délaissement. Vous savez, par exemple, ce qu'on appelle le hajr, quand tu boycottes quelqu'un, tu le délaisses. Ben, le mot hijra, il vient de là. Délaisser une chose. Il dit, وتكون بترك بلد الخوف الى بلد الامن كهجره من مكه الى الحبشه. Donc cette hijra, maintenant il parle du déplacement, l'émigration. Il cite différentes formes de hijra, dont celle qui est la hijra d'un pays de peur où tu n'es pas en sécurité pour un pays sécurisé. Il donne l'exemple des sahaba qui ont quitté Mecca pour aller en Habasha, en Éthiopie, chez An-Najashi qu'on appelle le Négus. À savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pays d'islam. Donc ils ont pris le pays qui était le meilleur pour eux. D'accord ? وَتَكُونُ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرُ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ. Et ensuite, il a dit, la hijra, également, c'est d'émigrer du pays de mécréance vers le pays d'islam. Et c'est ça qu'ils ont fait les sahaba, de Mecca à El-Medina. D'accord ? Et cette hijra est devenue obligatoire. Même ceux qui étaient en Habasha, ils ont dû aller à El-Medina. Ce qui prouve que cette hijra en Habasha, elle était en fait temporaire. C'était en attendant que ça se tasse pour eux, ça se calme pour eux, ils sont partis là-bas, plutôt que rester à Mecca et se subir les sévices de Quraysh. Mais en réalité, ils n'étaient pas installés pour vivre là-bas. Donc la vraie hijra était où? Après le Médina. Donc aujourd'hui, partir dans un pays de Koufre qui est meilleur que celui dans lequel tu es, cela te sera permis, mais c'est pas une hijra. Comme celle de quitter le pays de Koufre vers le pays d'islam. On te dira, c'est mieux pour toi, par exemple, dans tel pays, au moins t'embêter. Mais ne crois pas que t'as la récompense du muhajir qui est parti en pays d'islam. Ça, c'est beaucoup plus dur. Ça a plus de valeur. Donc, c'est ce que les sahaba, ils ont fait. Ils ont quitté Mecca pour aller le Médina avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais à leur époque, cette hijra est obligatoire pour tout croyant. Toute personne qui se rentre en islam devait aller le Médina. Pourquoi? Pour que les musulmans se multiplient, se renforcent, et de là, à commencer ce que vous connaissez comme parcours prophétique. Et que les règles sont venues, que l'islam, les musulmans sont devenus forts, qu'il y a eu les djihad et ce genre de choses. Il a peur qu'ils se rassemblent tous. On a même lieu. D'accord? Et qu'ils se soutiennent. Et une fois que Mecca a été conquise, aller le Médina n'était plus obligatoire. Mais la hijra, depuis de quitter le pays de Koufra, pas d'islam, c'était resté obligatoire. Mais t'allais où? En pays d'islam. D'accord? Mais maintenant qu'aller le Médina en soi n'était plus obligatoire à ce moment-là. Car Mecca était redevenue la terre des musulmans. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed, une fois a été interrogé par un homme qui disait qu'il avait fait la hijra en Italie. Cheikh Al-Abed, il a dit, ça c'est pas la hijra, ça c'est la hijra des oiseaux, ça. C'est les oiseaux migrateurs qui vont d'un lieu à un lieu pour les saisons, pour des causes. Il a dit, toi, c'est pas la hijra que t'as fait. C'est la hijra des oiseaux que t'as fait. La hijra, c'est en pays d'islam. Pas en Italie, pas en Allemagne, pas en Angleterre, pas au Canada. C'est en pays d'islam. Tu vois. C'est lui-même qui lui a dit ça. Hijrat al-Tuyur. Tayyib. Donc ensuite, il a parlé de cette hijra en disant que man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Que celui qui fait cette hijra pour plaire à Allah et son messager, cette hijra, ça comptait comme tel. Et ensuite, il dit, celui qui fait cette hijra pour un bien mondain, pour épouser une femme, c'est-à-dire en apparence, il aura fait un acte de mérite, mais sa niya, c'était quoi? C'était pas là, son messager. D'accord? Par exemple, il est ici, il est en France, un exemple, et c'est fréquent, et il veut se marier. Et il entend qu'il y a une sœur à marier au Maroc. Tu vois, la sœur a tout le profil qu'il lui faut. Mais la sœur a dit, moi, je reste au Maroc. Le frère dit, c'est bon, je vais venir. C'est quoi qu'il veut en partant au Maroc? Il veut se marier. Après, c'est pas impossible qu'il dise, khlas, je vais la hijra également. Tu vois? Ça fait longtemps que je voulais partir, khlas, ça va me booster, je vais partir. Mais t'en as, ils veulent juste la faire. Tu vois? Donc lui, on va dire, sa hijra, elle est comptée comme quoi? Pour le mariage. C'est tout. Ou, un autre exemple, un frère qui est en France, qui a pas de travail. Ils tournent en rond miskine. Et après, elle, au Maroc, pareil. Et dis-moi, j'ai un plan, par exemple, j'ai un travail pour toi, telle et telle chose, on ramène des voitures de France, comme ça, et ça prend beaucoup d'argent. Je dis, ah ouais, ça me convient. Il va aller au Maroc. C'est quoi son but? Parce qu'il a trouvé un travail là-bas. D'accord? Comme les Koufars, ils font, il y en a plein, ils partent dans les pays pour aller travailler. Ils vont au Canada, ils vont en Chine, tu vois, ils s'installent là-bas. C'est quoi leur but? C'est Allah et son messager? Non. C'est là-bas, il y a un travail avec un bon salaire et j'ai des avantages, des privilèges, je vais là-bas. Et il reste là-bas. Après, ça lui plaît, il fait sa vie là-bas. Eh ben, nous, quand on fait les gens, on ne doit pas penser comme ça. On doit penser en premier lieu, ce qu'on fait, c'est pour plaire à Allah et son messager, d'accord, et renforcer l'islam. Et il dit, قال ابن رجب قد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. Il y a une fausse rumeur qui disait qu'il y avait un homme qui s'appelle Muhajir Umm Qais. C'est un homme qui avait quitté, je sais pas, c'est Mecca où, pour rejoindre une femme qui s'appelait Umm Qais qui était à Al-Medina. D'accord. L'histoire, elle est vraie. Mais le hadith n'est pas venu en rapport avec cette histoire-là. Parce qu'il y en a, ils disent que la cause de ce hadith, c'était lui. Donc là-bas, ils disent non. L'histoire, elle a vraiment eu lieu, mais le hadith n'est pas en relation avec son voyage vers Umm Qais. D'accord. Donc si jamais vous l'entendez, cette histoire-là, vous dites l'histoire, elle est vraie, mais le hadith, la cause de la venue du hadith, n'est pas cette histoire-là. Ensuite, il dit, « Al-niyya mahalluha al-qalb, wa talafuz biha bid'a, fa la yajuz talafuz bin niyya fi ayy kurbati min kurab. » Il a dit, donc maintenant, la niyya, c'est où son emplacement? Dans le cœur. Ta niya, c'est dans le cœur. Il a dit, tu n'as pas le droit de la prononcer. Prononcer la niya, avant l'adoration, c'est une bid'a. Par exemple, quelqu'un, il vient, vous allez voir, vous connaissez sûrement les Arbesh. Moi, c'est les Arbesh. Vous connaissez pas les Arbesh? Vous connaissez pas? C'est une secte qui existe. Ils sont là, et eux, par exemple, ils vont te dire, on va faire la salat, tu prononces ta niya. Je suis au masjid, je vais faire salat al-dhor, derrière l'imam, et tu prononces. Tu vois? Et ils le font. Moi, je les ai vus. Ils disaient de le faire. Et il y a même des ulama qui se moquaient d'eux. Ils disent, oui, n'oublie pas de dire à telle heure, tel jour, à tel masjid, dans telle ville, dans tel pays. Tu vois, pour dire, t'en fais trop, tu vois. L'islam, t'as pas l'air de faire ça. Dans ton cœur, ça suffit. Quand t'arrives au masjid, pourquoi t'es venu au masjid à cette heure-là? C'était quoi? C'était pour ça. Donc ta niya, elle est là. C'est comme le siyam. Le siyam, pour jeûner, il faut que t'aies mis la niya avant la levée du soleil, que tu vas jeûner. D'accord? Donc, quelqu'un qui se lève avant le fajr pour le sahur, c'est quoi sa niya? C'est qui c'est qui va jeûner? Donc, la niya, elle est là, en fait. Faut pas qu'il a pris la waswaswa, j'ai mis la niya, j'ai pas mis la niya, tu t'es levé, t'as pris le sahur, c'est quoi que t'allais faire? C'est t'allais jeûner. Khalas! Ce que t'en as dans la niya, il rentre dans le waswas. Est-ce que j'ai mis la niya, j'ai pas mis la niya, khalas, il devient fou. Il recommence l'odo, il recommence plein de trucs. On dit non. Reste calme. Là-bas, c'était Mélania. D'accord? Donc, on ne veut pas la porte du waswas. Donc, talafuz bin niya, il a dit, c'est une bida. Quand tu vas faire une adoration, tu dis, je vais faire telle chose avec toi. Même si tu dis pas à voix haute, mais tu bouges tes lèvres, je vais faire ça, pour ça, pour ça. Là. Le seul moment où il y a un acte où on le fait, c'est pour le hajj et la umrah. Quand tu dis, la bek, Allahumma la bek, umratan ou hajjan. Quand tu dis, oh Allah, je réponds ton appel par un umrah ou un hajj. Lui, dit, c'est le seul moment où tu as un dalil de prononcer ce que tu vas faire. Et d'autres ulama dit, ça, c'est pas prononcer la niya, ça. Ça, c'est un rite du hajj que tu dois le dire. Ta niya, tu l'as eu avant. Quand t'as pris l'avion, t'as pris ton... Hey, t'avais dit la niya. Seulement, à quel moment tu dis ça? Quand t'as passé le miqat. C'est un moment précis, il faut que tu le dises. Donc c'est un rite du hajj ou de l'umra, en fait. Si jamais tu le fais pas, tu vois, je sais pas si ça annule. J'ai oublié. En tout cas, faut le faire. Minimum, c'est wajib. D'accord, c'est wajib. Donc t'as dit, l'ulama dit, c'est pas le talafuz bin niya. Là, c'est un rite du hajj. Tout comme par exemple, quand tu veux rendre la salade, tu dis Allahu Akbar. C'est un rite de la salade. Et ben, ils disent, le talbiya, c'est un rite dedans également. Sauf que, bien évidemment, quand tu prononces, tu dis ce que tu vas faire. D'accord? Tu dis ce que tu vas faire. Mais c'est une chose que l'islam te demande de faire. Donc, que ce soit un talafuz biniya ou pas, on a un dalil, il faut le faire. En dehors de cela, il n'y a rien. Avant de jeûner, tu dis pas je vais jeûner aujourd'hui, jusqu'au maghreb, là. T'as pas à le dire. La salade, t'as pas à le dire. D'accord? La zakat, tu sortir mon argent, je dois donner tant, je dois donner un tel, non, t'as pas à le dire. Inamal amal biniya, la niya dans ton cœur. T'as pas à la prononcer, ta niya. Donc, il dit, khulasa, récapitulatif, mima yustafad min hadha al-hadith, donc ce qu'on doit retenir comme gros point de ce hadith, annahu la amal ila biniya, qu'il n'y a aucun acte que tu vas commettre sans que tu aies une intention de le faire. Quoi que tu fasses, que ce soit un halal, que ce soit un haram, que ce soit un bien, que ce soit un mal, tu vas faire une chose, tu sais pourquoi tu vas la faire. Sinon, c'est que t'es un fou. Tu vois. Quelqu'un, il sort dans la rue, si tu fais, je sais pas. Tu marches, ouais, pourquoi, je sais pas. On dit, il est fou, lui, il a un problème. Là, tu dis, je vais au champ. Il sait où il va, il est ni, hein, je vais au champ. Je vais quoi, je vais acheter du fromage. Il sait ce qu'il va faire, pourquoi. Donc, non, en logique, un être humain sensé qui raisonne, quand il fait une chose, il sait pourquoi il va la faire. Que ce soit un bien ou un mal, que ce soit pour Allah ou pour Allah, il sait ce qu'il va faire, pourquoi il va le faire. D'accord? Thaniyan, an al-a'mal mu'tabara bi niyyatiha, que les actes sont pris en considération en religion pour ton intention. Comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais tu veux un bien, t'auras un bien, inshallah. Tu veux un mal, même si ton acte il est bien, t'auras un mal, malgré que l'acte soit bien en apparent. Thalithan, an al-thawab al-a'mal al-a'malihi ala hasab niyyatihi. Troisièmement, que la récompense qui revient à celui qui aura agi, cela sera en mesure de son intention, comme on l'a dit. S'il veut un bien, inshallah, il aura un bien. S'il veut un mal, il aura un mal. Rabi'an, darb al-alim al-amthal li-tawdih wal-bayan. Que le savant, parce qu'il explique des choses aux gens, il donne des exemples. Pour que ce soit figuré, pour que ça soit bien compris, que ce soit bien assimilé. Il faut qu'il trouve des exemples. Parce que des fois, tu t'expliques des choses, comme ça, en théorie, les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment. Mais quand tu donnes un exemple imagé avec une personne, situation, il dit, ah, j'ai compris là. Donc, la bonne façon d'enseigner, donner des bons exemples. Qu'ils soient clairs. Et qu'ils soient à la portée des gens. Pas avec les gens. Et que le langage qu'ils comprennent et le mode de vie qu'ils ont. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il parle de plein d'exemples. Mais Thalen, Afalayanzuru, l'Ibili, qui est Fakhulikat, dont tu n'as pas vu, à la dromadaire Chamel, comment elle a été créée. Parce qu'à l'époque, les gens se déplaçaient comment? En dromadaire. Donc, Allah Azza wa Jal parlait aux gens, et ce qu'ils comprenaient. Un exemple des bateaux, que les gens étaient passants. Il n'y avait pas encore d'avion à l'époque. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un va parler, il va parler de la voiture, il va parler de l'avion, il va parler de téléphone, des choses qui sont, voyez, employées par les gens à leur époque. Demain, tu vois, je vais parler à un foulé, je parle de dromadaire, il va dire, j'en ai jamais vu de ma vie. De quoi tu me parles? Juste aux os, j'en ai vu un. Hein. Il va pas comprendre. Mais tu lui parles de tel scooter, il dit, oh, c'est bon, j'ai compris. Mon grand frère en a un et je rêve d'en avoir un. Ah, si c'est de quoi tu parles. Il a compris. D'accord? Comme à l'époque, il rêvait d'avoir des chameaux, certains. Le gros chameau, c'était comme aujourd'hui une grosse voiture. Allons, ma balek. Cheikh Abdelhamid, il cite souvent. Au Yémen, on a ce qu'on appelle le Hilux. C'est les Toyota pick-up derrière. C'est le top pour travailler, pour faire le déménagement et tout. Il dit, à l'époque, un chameau, c'est comme le Hilux aujourd'hui. Les gens disent, ah ouais, d'accord. Parce que je dis, du chameau, dis, mais c'est quoi un chameau? C'est rien, un chameau. Compare-le avec une chose dont il a besoin aujourd'hui qui transporte. Il dit, ah ouais, d'accord. Là, j'ai compris. يقول فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها. Ce qui montre le mérite de la hijra, car le Nabi صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith qui est de cette importance capitale, il a pris quoi comme exemple? La hijra. D'accord? Tant elle est importante. ثالثا أن الإنسان يؤجر ويؤذر ويحرم بحسب نيته. Également, ça ressemble au troisième point, que la personne sera récompensée ou prendra un péché en mesure de sa niya. سابعا ان الاعمال بحسب ما يكون وسيله له فقد يكون الشيء المباح في الاصل ويكون طاعه اذا نوى به الانسان خيرا كالاكل والشرب ان نوى به التقوي على العباده et que un acte que tu vas commettre si de base il est permis peut devenir t'apporter une récompense si tu mets une niya d'atteindre une adoration avec. D'accord, tout à l'heure on a dit l'exemple de celui qui mange pour se renforcer pour adorer Allah Azza wa Jal, celui qui prend sa voiture pour aller au masjid. D'accord? Sa niya, c'est quoi? D'aller au masjid. Ainsi de suite. Donc, un acte de base peut devenir une adoration et t'apporter une récompense avec la niya que tu y mets. Thaminan, an al-amal al-wahid yakun l'insan ajran wa qad yakun l'insan hurman. Et qu'un acte que tu vas commettre peut te valoir la récompense, tout comme il peut te valoir une privation. De cet acte complètement. Quand tu l'auras mal fait, ou tu auras mis une mauvaise niya. L'exemple, on l'a dit tout à l'heure, le roussel. Le Jumu'ah, quelqu'un il se lave après avoir fait du sport pour sentir bon et tout, il n'a pas même la niya du roussel. Ça va valoir que le roussel du Jumu'ah, il sera bâtil pour lui. Il l'aura pas. Mathalan. Ou même l'eau d'eau. Quelqu'un, il fait l'eau d'eau. Il a chaud, c'est en été. Il veut se rafraîchir. Et il fait les mêmes gestes que l'eau d'eau, mais il met pas la niya du roussel. Et ben, s'il fait ça là, après, ça, t'es bâtil là. Pourquoi est-ce qu'il a pas l'eau d'eau en vrai? Juste, il s'est rafraîchi le visage. Il avait le nez encombré, il s'est dégagé le nez. Il avait les mains sales, il s'est lavé les avant-bras, tout ça, la tête. Comme l'ozo, en gros. Mais sa niya, c'est pas faire l'ozo. Et ben, ce qui va en découler par la suite, comme salat, ça sera bâtil. Parce qu'il a pas fait l'ozo, donc il est pas en état de purification. Donc la salat, ça sera pas valide. Elle sera pas valide. Ben, il dit, ah, c'est bon, j'ai fait l'ozo tout à l'heure. Ouais, mais t'avais pas la niya de l'ozo tout à l'heure. Tu t'es juste rafraîchi. D'accord? Donc là, sort de la salat, va faire l'ozo, et rentre dans la salat, si t'as le temps de la rattraper. Ma fumada. Donc voilà, en gros. Alors, voilà ce hadith, on peut dire plein de choses. Plein de choses, mais c'est ça qu'il faut retenir. L'essentiel. Bidina ta'ala. Tayyib, naktafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Je vous pose une question.